Voix des Arts, présentée par Christine Darbou. Bonjour à tous. Alors, vous le constatez certainement au cours de ces émissions, combien il est difficile de quitter la Suède, tant nos pionnières au cinéma y sont nombreuses. La dernière émission, vous avez fait la connaissance de 6 femmes, toujours des scénaristes, hein, comme Dagmar Edqvist ou Barbro Bowman, également réalisatrice, d'une réalisatrice de documentaire nommée Kaj Aspegren-Tenov, sans oublier notre musicienne du jour, Maj Sonstevold. Et même, vous avez pu découvrir une technicienne, scénographe, décoratrice de cinéma et de théâtre, qui a exercé avec succès un métier réservé aux hommes. Il s'agit de Bibi Lindström. Et vous avez découvert la femme qui créait les génériques et les textes et images au temps où le cinéma muet était illustré, Alva Lunding. Alors, je vais encore vous parler aujourd'hui d'une auteure suédoise qui a écrit pour le cinéma. Il s'agit de Ulla Isaksson. Elle est née en 1916 et elle a surtout été active de 1940 à 2000. Et elle fait partie de ces femmes qui ont gravité autour du célèbre réalisateur suédois Ingmar Bergman. Car Ingmar Bergman a réalisé des films grâce à ses écrits. Alors, avant de travailler pour Ingmar Bergman, elle a fait ses débuts en 1953 avec un réalisateur nommé Amp Fossman. Et si vous vous souvenez, celui-ci n'est autre que le fils de la peintre réalisatrice Molly Fossman que je vous ai présenté l'émission précédente. Et ce réalisateur adapta au cinéma en 1952 un livre de Ulla Isaksson intitulé Kvinnohuset. Ce livre, paraît-il inspiré de la réalité, traite de la vie de femme célibataire autorisée à vivre dans une maison à condition qu'elle reste célibataire. Et Ulla Isaksson aurait choisi Amp Fossman car celui-ci avait pour réputation de faire des films engagés socialement. Mais malheureusement, ce film aurait reçu un accueil très réservé et de la part du public et aussi de la critique, car paraît-il, ce film n'aurait été qu'une adaptation édulcorée de l'œuvre de Ulla Isaksson. Et c'est surtout Ingmar Bergman qui va utiliser ses créations avec succès. Alors le film intitulé « Près de la vie » de 1958, qui traite de la vie de femme au sein d'une maternité, est une réussite éclatante avec une critique très élogieuse. Alors les prix pleuvent hein, pour la mise en scène, pour les interprétations, mais apparemment le travail de Ulla Isaksson est ignoré car elle ne recevra aucune récompense. Ceci dit, elle continuera sa collaboration avec Ingmar Bergman pour un autre film dont elle écrira le scénario. Il s'agit de l'histoire d'une jeune fille maltraitée, tirée apparemment d'une chanson du folklore norvégien. Et ce film intitulé « Jungfru Kallen » de 1960 permet à Bergman de recevoir son premier Oscar, tandis que toujours rien pour Ulla Isaksson. Alors en 1962, elle sort un roman intitulé « Les deux blessés » qui relate l'histoire d'une femme déséquilibrée mentalement et qui entraîne dans sa déchéance son compagnon. Cela ira jusqu'au suicide. Alors là, Bergman la relance encore pour faire un nouveau film, mais Ulla Isaksson refuse, car elle estimait à l'époque que l'histoire était trop sombre. Et ce sera 24 ans après qu'elle écrira le scénario pour la télévision que Bergman adaptera en 1986. Mais le succès ne sera pas au rendez-vous. Alors elle continuera d'écrire pour le cinéma avec plus ou moins de réussite. Le film qui reçoit une bonne critique est l'adaptation en 1977 de son roman intitulé « Paradis Storg », qui parle encore des femmes, de leurs conditions. D'ailleurs, il semblerait que son travail d'auteur et de scénariste tourne beaucoup autour de la féminité, de la condition de la femme, de la psychologie de la femme. Alors, elle écrit aussi pour la télévision. Le sujet qui a du succès en 1988 met en relief la relation de couple entre Hjalmar Bergman et Stina Bergman. Et si vous vous souvenez, je vous ai présenté dans une des émissions précédentes de La Voix des Arts, Stina Bergman, la scénariste qui a secondé avec dévouement son dramaturge de mari. D'ailleurs, son dernier scénario sera pour une adaptation télévisée en 1993 d'une œuvre de Hjalmar Bergman intitulée Schäffen Fru Ingeborg. Et c'est 7 ans plus tard, en 2000, que Ulla Isaksson décédera. Alors nous avons aussi une journaliste, reporter à la plume affûtée qui sillonne le monde, car elle passe aussi bien en Allemagne pour diriger sa plume contre les nazis qu'en Espagne au moment de la guerre d'Espagne, puis au Japon pour faire encore un reportage sur Hiroshima jusqu'à traverser l'Inde pour y rencontrer le Mahatma Gandhi. Et dans la foulée, elle met sa plume au service du cinéma en tant que critique et également scénariste. Et cette personne se nomme Barbro Alving et elle est née en 1909. Alors apparemment, ce serait presque une tradition que de nombreuses femmes, auteurs de romans par exemple, deviennent scénaristes car leurs livres inspirent pour réaliser des films. Or c'est encore le cas pour cette auteure, aussi scénariste et également traductrice, nommée Majken Kullborg, née en 1920. Alors, j'en ai cité quelques-unes, mais la liste me semble loin d'être exhaustive. Mais je crois maintenant qu'il est temps de faire une petite pause musicale pour digérer toutes ces informations, nous décontracter quelque peu. Mais je vous propose bien évidemment de rester en Suède pour écouter avec moi une jolie mélodie de ce pays. Poursuivons notre voyage en Suède pour découvrir d'autres de ces femmes ayant œuvré pour le cinéma à ses débuts. Et voici Ulla Rigg, née en 1924, qui fut monteuse, scénariste et réalisatrice. On va dire qu'elle a bourlingué pas mal avec son métier de monteuse et de scénariste dans divers pays et donc au-delà des frontières suédoises. Alors elle aussi travailla pour Ingmar Bergman. Et pourtant, au tout début de sa vie professionnelle, ses choix l'avaient portée sur l'agriculture. Et elle s'apprêtait à suivre une formation d'agricultrice lorsqu'elle prit conscience que l'art et la culture l'intéressaient davantage. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à étudier l'histoire de l'art et la littérature avant de rejoindre une troupe de théâtre pour devenir comédienne. Mais son existence a encore pris une autre direction, elle est devenue journaliste et elle a même épousé un journaliste. Alors comme la télévision faisait son apparition dans les années 50, son projet fut de rejoindre les studios en tant que journaliste. Mais encore une fois, son existence prit une autre direction puisqu'elle devint à la place assistante monteur. Alors sans doute y prit-elle goût et elle finira par être embauchée, non sans mal d'ailleurs, par Ingmar Bergman. Alors nous sommes dans les années 60 et elle est monteuse pour se retrouver responsable de formation au montage. Et c'est ensuite qu'elle partira à l'étranger, et plus précisément au Canada, où elle réalisera un documentaire, puis ensuite à Chypre, où elle enseignera dans une école de cinéma. Elle sera également employée dans une télévision chypriote en tant que monteuse et réalisera aussi des documentaires, puis ce sera en Suisse pour revenir au Canada. Donc, vous constatez que c'est une dame qui n'avait pas les deux pieds dans le même sabot. Et comme elle s'intéressait au cinéma dit communautaire, elle réalisera 3 films avec des amateurs, des jeunes gens, et s'emploiera à filmer leur réalité quotidienne. Alors elle fera encore d'autres expériences pour, dans les années 80, enseigner en Australie, et elle sera la productrice du premier film de la réalisatrice Jeanne Campion, film intitulé « Pile, exercice de discipline ». Elle travaillera également comme scénariste et comme enseignante pour l'écriture de scénarios, ce qui l'amènera encore à voyager en Malaisie, à Singapour, à Bornéo. Bon, c'est quelqu'un qu'il faut le suivre. Hein. Puis elle reviendra au Canada, mais c'est là pour rester tranquille une bonne fois pour toutes, puisqu'elle y décédera en 2011. Alors, on dirait que les femmes suédoises se précipitent dans l'émission de La Voix des Arts, bon, à moins que ce soit moi qui ouvre les portes en grand pour les faire rentrer. Mais comment ne pas constater qu'elles furent nombreuses et actives au développement du cinéma? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, les femmes qui écrivaient romans ou autres productions littéraires devenaient très souvent scénaristes. Et c'est encore le cas ici pour Eva Dalbec, qui est née en 1920, même si je n'ai pas trouvé une grande production de scénarios chez elle. Alors il semblerait qu'à ses débuts, elle tâtonna un petit moment avant de trouver sa voix, ou plutôt ses voix, car de comédienne de théâtre, elle passera à l'enseignement de la mise en scène, tout en gardant sous le coude ses activités d'écrivaine. Ceci dit, elle publiera une quinzaine d'œuvres, des romans, des pièces, des poèmes, des nouvelles. Puis c'est en tant qu'actrice de cinéma et de télévision qu'elle interprétera quand même une 50aine de rôles. Et sa réputation sera internationale grâce justement à ses rôles, notamment dans les films d'Ingmar Bergman. Elle a d'ailleurs été récompensée au Festival de Cannes en 1958 pour ses talents d'actrice, mais elle recevra aussi d'autres récompenses pour ses talents de comédienne de théâtre et d'écrivaine. Quant au scénario, celui qui est notable est pour un film intitulé « Le meurtre d'Ingjom » de 1966, réalisé par Arne Mattsson, qui traite d'une grande affaire criminelle véridique dans la Suède du XIXe siècle, où il est question d'une femme qui est assassinée par son mari et sa belle-mère. Bon, tout un charmant programme. Alors, pour faire passer tout ceci, je vous propose encore d'écouter une jolie voix mélodieuse sur une agréable musique traditionnelle suédoise. Alors, en m'intéressant au cinéma suédois et en cherchant quelque peu mes informations pour les recouper et dénicher toutes ces femmes, je me suis rendu compte que peu de textes les mentionnaient. On parle surtout des pionniers présents au temps du muet, comme par exemple les réalisateurs Ernest Florman, Victor Sjöström, Moritz Stiller, hein, si ça vous parle, hein, si vous en avez entendu parler. Quant aux femmes qui ont marqué le cinéma muet, ben, l'intérêt se porte surtout sur les actrices, comme par exemple Greta Garbo. Et ces autres femmes de l'ombre, elles y restent, contrairement aux hommes qui, même s'ils travaillent en coulisses et tirent les ficelles, eux sont mis en lumière et reconnus. Quoi qu'il en soit, le cinéma est un vaste sujet, c'est devenu un art majeur, et il y a beaucoup à en dire hein, dans chaque pays. Et le cinéma danois et suédois n'échappe pas à la règle, mais cela se doit aussi grâce à la contribution active de la gente féminine. Alors une réalisatrice qui est quand même citée parmi ses collègues masculins de l'après-guerre 39-40 et qui est citée auprès de réalisateurs comme Ingmar Bergman, qui lui est connu à l'international et dont la renommée retentit également aux oreilles des non-cinéphiles, Elle est citée également parmi d'autres réalisateurs comme Arne Mattsson, Bo Widerberg. Il s'agit de May Elisabeth Zetterling, qui est née en 1925, qui fut actrice, mais également scénariste, réalisatrice, productrice, écrivaine et documentaliste. Alors déjà très jeune, elle s'était lancée dans une carrière de comédienne de théâtre, mais aussi d'actrice de cinéma, puisqu'à 16 ans, en 1941, elle sera remarquée par des cinéastes britanniques grâce à un film intitulé « Tourment » qui fut réalisé par Alf Sjöberg en 1944 et écrit par Ingmar Bergman. C'est d'ailleurs le premier film qu'il a écrit, hein, qu'a écrit Ingmar Bergman, et May Zetterling en était l'actrice principale. Alors il est question de lycéens soumis à des professeurs tyranniques. L'ambiance est glauque et j'ai cru comprendre qu'Ingmar Bergman faisait un parallèle entre la situation de cette école, de ce lieu, et puis la situation qui régnait dans la Suède de l'après-guerre. Quant à May Zetterling, ben, ce film lui permettra de prendre son envol pour se préparer à une belle carrière d'actrice. Bon, à noter que ce film a été récompensé par le Grand Prix de Cannes en 1946. Or, un peu plus tard, elle jouera cette fois dans un film réalisé par Ingmar Bergman, intitulé « Musique dans les ténèbres », où elle accompagne et redonne confiance à un jeune homme qui, malgré sa perte de vision, réussira à vivre sa passion pour la musique. Et pendant près d'une vingtaine d'années, ben, elle tournera dans plus d'une vingtaine de films. Et c'est à partir des années 60 qu'elle commence à réaliser, et c'est pour tourner dans des documentaires à dominante sociale, où elle traite de groupes de marginaux pour la chaîne anglaise BBC, ce qui lui permet d'apprendre aussi son nouveau métier. Ensuite, elle réalisera une fiction, un court-métrage de 35 minutes, intitulé « Le jeu de la guerre » en 1962, qui remportera le Lion d'argent de la Mostra de Venise. Et là, elle relate à ce sujet une anecdote. Alors, à cette époque, elle était complètement fauchée, et comme on lui avait dit que grâce à ce prix, elle avait droit à une chambre pour 3 jours à Venise, elle prit le train, bon, en troisième classe, hein, évidemment, vu l'état de ses finances. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel, ben, on n'a pas voulu lui donner sa chambre sous prétexte que l'on attendait un réalisateur et non une femme. Et malgré toutes les explications, ben, ils n'ont rien voulu entendre, si bien qu'après avoir reçu son prix, ben, elle a repris son train. Alors ça donne une idée hein, des représentations que la société se fait des rôles de chacun. Mais cela ne la découragera pas pour autant. Aussi dans la foulée, en 1964, elle réalisera son premier long-métrage intitulé « Les Amoureux », dont elle écrit également le scénario en s'appuyant pour faire ce film sur une saga écrite dans les années 30 par une femme, Agnès von Krusenstjerna, qui a été quelque peu vilipendée pour n'être pas assez conforme et donc eu aussi du mal à éditer. Alors l'intrigue se déroule pendant la guerre qui éclate en Suède en 1915, où il est question de femmes qui évoquent leurs souvenirs dans une clinique où elles accouchent. Alors ce film a été plutôt mal reçu par la critique. La critique a reproché à Mes Etterling de trop remettre en question, elle aussi, les valeurs morales de l'époque concernant la famille, le mariage, la vie maritale, hein, etc. Et de plus, qu'un film soit réalisé par une comédienne qui est censée, comme elle le dit elle-même, être complètement idiote, ce n'était pas normal. Ceci dit, son film a remporté un franc succès auprès du public. Et nous comprenons, hein, nous avons compris que Mes Etterling bouscule le conformisme ambiant en abordant dans ses films des sujets dérangeants sur la condition féminine des Suédoises. Or, j'ai lu qu'elle abordait les frustrations sociales et sexuelles des femmes, dont le regard sur les hommes était plutôt critique quand il n'était pas méprisant. Alors on a quand même demandé à Mes Etterling pourquoi elle était passée de devant la caméra derrière la caméra, ce à quoi elle a répondu que d'obéir pour dire des niaiseries dites féminines devant la caméra ne lui suffisait pas, d'autant plus que les actrices de cinéma étaient souvent cantonnées à jouer les mêmes rôles limitatifs, de mère, de secrétaire, de putain et parfois d'impératrice, et qu'elle avait besoin de créer, de s'exprimer, et que le cinéma lui offrait un fantastique moyen de le faire. Or, c'est ainsi qu'elle compte, entre le cinéma et la télé, une vingtaine de films à son actif. Et parmi ces films qui ont défrayé la chronique, je citerai « Jeux de nuit », tourné en 1966, qui met en scène une famille avec un personnage de la mère apparemment sulfureux, film qui provoqua un scandale au Festival de Venise avec une projection publique interdite. Quant à son film intitulé Les filles, tourné en 1968, il met en scène trois comédiennes de théâtre rebelles avec Bibi Anderson à l'affiche. Et pour ce film, la critique va se déchaîner. Et Mes Etterling sera interdite de film pendant 7 ans. Et quand le film ressortira 7 ans plus tard, ce sera un succès. Il sera projeté dans tous les festivals et elle accueillie avec chaleur, comme quoi la roue tourne. Et après cette longue carrière, Mes Etterling décédera en 1994, à l'âge de 68 ans, d'un cancer, après avoir écrit sa biographie. Et nous, nous allons nous quitter car l'émission est terminée. Je vous laisse méditer sur tout ce que je viens de vous livrer en information et vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.